Lucie de la rue Bardrus, la Pirane. Nous revoyons sans peine, bien avant l'entrée de l'auto dans le monde, un honfleur assez peu différent de l'actuel, et parmi ces rues étrécies, au bord de ces deux clochers, la belle poissarde qui rendait fou tout le masculin du port. Lors de ma naissance, des vieillards qui l'avaient vue quand ils étaient petits se souvenaient encore d'elle avec émotion. Ses cheveux noirs à reflets, ses yeux couleur d'océan, ses dents par hasard magnifiques au pays des chicots, sa belle encolure, sa démarche de gaillarde qui n'a peur de rien, tout cela fit que, dès ses 16 ans, le pêcheur nommé Jean Piran se dépêcha de l'épouser pour l'avoir à lui tout seul. Maître de son bateau, la bonne nouvelle, il représentait pour la fille un désir inespéré. Elle était née d'un matelot pauvre et d'une débardeuse, unique enfant, et vouée tout de suite à vendre la crevette et la sole à la poissonnerie. N'ayant pas manqué d'être emmené au banc du ratier avec gras garce du pourport pour la cueillette des moules à 10 ans, elle connaissait la marée comme un loup de mer. Embrunit les vagues, averse du ciel, barque trempée, était ouvert de poissons, mouillés, sabots dans les flaques, toute son existence clapotait, eau douce et salée, eau verticale et horizontale, éternelle humidité, sucée par l'estuaire, goût de sabure sur les lèvres et vent pluvieux dans les cheveux. Elle ne devait savoir que plus tard, quand s'arracha sa racine dans les pavés, on fleurait, où croître et respirer lui semblait si naturel. Devenue la femme Piran, la Pirane pour ses admirateurs et ses rivales, elle ne fut pas longue à découvrir son pouvoir sur les mâles. Jusqu'à des messieurs de la ville qui tournaient autour, à 20 ans, elle avait tant d'amoureux que le mari renonçait à ses coups de jalousie. Elle lui restait fidèle par mépris pour tous ces hommes qui la voulaient. Une Normande ne se laisse pas facilement conquérir. Sa suprême taquinerie et toute l'ironie de la race de Honfleur, qui n'a pas sa pareille pour se moquer du monde, et avec esprit, suffisait à l'amuser, et le jeu dangereux qu'elle menait avec tous les garçons n'allait pas plus loin. À 25 ans, elle perdit son père, 1 mois plus tard mourut sa mère, et cette année de deuil, car elle aimait ses parents, fut marquée par un autre drame, être amoureuse. C'est un grand efflanqué, matelot à bord du chalutier, le Vigoureux. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, celui-là, pour charmer une fille comme Clémence Piran? Son maillot bleu foncé, son bonnet tricot de laine, du blond sous le bonnet, du gris dans les prunelles, une petite moustache Victor, et il n'y a pas de quoi la s'émouvoir. Mais ses yeux sont impérieux, sa dégaine est particulière, sa voix des inflexions à lui. Et puis quoi, sait-on jamais quel est le mystère qu'une femme jusque-là tranquille découvre tout à coup dans un homme, un certain homme qui passe, courant à lui d'un élan que rien n'arrêterait. Elle devient cette force de la terre qu'on ne trouve que dans les attractions magnétiques, que dans l'attirance d'un corps pour l'autre au creux de l'éprouvette chimique. La railleuse Pirane ne charpe pas du tout les raisons de son goût pour le gars Chasselin. Le premier matin qu'elle le vit à la poissonnerie, il arrivait de Villerville pour se fixer à Honfleur, elle répondit à son regard, un regard qu'elle connaissait si bien, pourtant, regard de saisissement devant elle, sa frange noire au-dessus des langes d'iris clair, ses narines ouvertes, sa bouche rouge aux dents si blanches, son teint d'or et cette rose de rose, sa poitrine en avant, ses belles hanches, son air d'effronte et coquette, répondit au regard du Villervais. Non par son ordinaire rire en mezzo, mais par un silence étrangement grave, les yeux fixes et comme arrêtés devant la fatalité. Marie-Pierre Chasselin, la fatalité. Clémence Pirand, la fatalité. Tous deux restèrent immobiles face à face, les poissons lumineux entre eux, dans les ombres avec tout le monde autour de ce premier regard. Il pleuvait un peu. Le mois de mai frissonnait, brise froide sur le bassin de la Radoube. L'arbre qui pousse contre la lieutenance, ancienne porte de la ville au bout du bassin, remet les petites feuilles d'un vert encore pâle. Des nuages descendus ne laissaient voir qu'un peu de bleu tout au bout de l'abîme d'en haut. Et le quai Sainte-Catherine et Saint-Étienne jetaient chacun de leur côté des images de vieilles maisons dans l'eau du bassin. Les fumées, du côté de la jetée qu'on ne pouvait voir, étaient pareilles à d'autres nuages plus petits et plus proches. Un bateau criait pour demander le port. « Oh, toi que je ne connais pas !» disaient les yeux de l'homme. « Je te veux !» et ceux de la Pirane. « Toi que je ne connais pas !» « Parle, tu mourras !» Alors il ne parla pas, sinon pour la vente d'un turbo et de quelques carrelets tout juste à portée de mer. « C'est tendre comme de l'agneau. Vos pratiques vont prendre tout ça tout de suite. On est arrivé trop tard pour la crier. » Puis il s'en alla. Toute la journée, la Pirane fut sombre. L'amour, dès son apparition, se présente aux humains comme une espèce de malheur. En rentrant le soir au logis, une toute petite maison de la rue Haute, la femme vit que son homme n'était pas revenu du café. Elle en fut heureuse. Au lieu de s'occuper de son fourneau, préparatif du dîner, elle éprouva le besoin d'ouvrir la fenêtre et de s'y accouder. Le bas des maisons, sur le côté de cette rue, pourrissait dans les marais et jetait une longue barbe d'algues. Des grappes de coquilles s'y incrustaient. Ainsi, le bout de la ville, à l'époque, figurait-il la géante carène d'un très vieux navire immobile. Le couchant faisait ce soir-là reluire la grève entre les galets. La grande boue noire devenait jusqu'à l'infini rouge et rose sous le ciel rouge et rose. Des barres sombres traversaient les rochers et des barres pâles reflets de nacre. Le Havre s'allumait au large, une voie lactée étendue sur l'eau. La Pirane ne regardait pas cette beauté crépusculaire. Elle regardait au-dedans d'elle-même, avec le frisson qui prépare l'aventure passionnée. Sa vie était changée depuis le matin. Son mari, qui lui tapa sur l'épaule, la fit bondir. Rien de prêt à l'heure de manger, même pas de lumière à la maison. Mais quoi que tu faisais donc ? Demanda-t-il abasourdi. Pas d'explication possible. Elle dit au hasard qu'elle avait mal à la tête et se hâta d'allumer la lampe à huile. Le mari s'assit patiemment. C'est l'heure où l'homme dépend de sa ménagère. Il y en a qui crient quand la soupe est en retard. Celui-là, subjugué par l'amour, ne faisait jamais de scène, même s'il savait bien ce qui pouvait bien arriver quelquefois. C'était un homme de 35 ans, à collier de barbe d'un brun roux, la lèvre supérieure rasée, des anneaux d'or aux oreilles, l'œil vif, bleu sombre, large d'épaule et haute taille, pas commode tous les jours, courageux au travail, honnête. Son regret de n'avoir pas d'enfant l'avait à la longue un peu renfrogné, rendu plus dur pour son matelot et son mousse à bord de la Bonne Nouvelle. Il était craint mais respecté. La marine l'estimait. On savait, malgré ce qu'elle déclinait dans les cœurs, que sa femme lui restait attachée et n'avait jamais trahi. Lui-même le savait bien aussi. Ceux de sa classe, n'ayant ni le pouvoir ni l'habitude d'analyser, ne soupçonnaient pas quel amas d'indifférence le séparait de sa belle compagne. Il en était amoureux, orgueilleux et jaloux. Elle lui donnait en échange cette sorte d'affliction qui n'est après tout qu'une vieille manie qu'on a. Peut-être qu'elle l'aimait bien. Elle ne se l'était jamais demandé. Chacun a son travail, l'un qui pêche du poisson, l'autre qui en vend. Les repas en commun, les économies en commun, le lit en commun. Avec cela, la vie s'écoule, sans qu'on y pense. La Pirane regardait ce genre de tous les jours. Tandis qu'elle apportait la soupe sur la table, elle le haït. Ils mangèrent, mais ne répondit pas quand il parla. Le pêcheur finit par s'étonner. « Quoi que t'as ? Toujours les boyaux de tête croisée ? Ça me semble drôle que tu me prennes pas mot. » Et ce fut encore à cause de cette migraine. Quand ils furent couchés et la chandelle soufflée, qu'elle se refusa sans pitié. Elle n'était pas encore à l'autre, mais n'était déjà plus à lui. Astuce ou timidité? Pouvant la voir tous les jours à la crier, s'il voulait, il ne revint pas comme elle s'y attendait. Le front barré de sa clémence angoissa le mari. « Faudrait voir ce que la médecine en dirait. Si demain c'est pas mieux, j'irons chez le docteur qui nous a déjà gouverné dans le temps. » Mais ce demain fut le jour où le virevillère parut à la poissonnerie. En lui parlant, la Pirane entendit trembler sa propre voix, cette voix un peu basse mais harmonieuse comme celle de toutes les Normandes, dont on savait qu'elle disait des choses toutes crues. Le garçon, encore un coup, ne s'occupa que du poisson. Mais le regard était toujours là. Malgré son envie de lui, la Pirane ne pouvait commencer la première. À leur troisième rencontre, elle sentit, parmi l'amas froid d'un lot de raies, qu'ils remettent ensemble, la chaleur d'une main qui, tout à coup, saisissait la sienne, et elle répondit au signe éloquent, et tout aussitôt, « Dites-moi, mon Pirane, où je pourrais vous trouver seul ?» Elle sentit qu'il la jugeait facile. Elle l'était pour lui, mais pas pour les autres. Le peuple est souvent elliptique, comme ses vieilles chansons. Elle supprima les paroles intermédiaires et dit « Vous n'êtes pas d'ici, mais vous pouvez vous informer si je suis envolé ou non. » Le thon était fier. Il a cru froissé. Il ne revint pas de 4 jours. L'amour les travaillait, chacun de son côté. Mais ce fut le garçon tout de même qui brusqua les choses. Peut-être s'était-il en effet informé. Il entra dans la halle des criers avec des yeux moins catégoriques, s'approcha d'un pas et murmura « Je ne serre plus les dents depuis que je vous connais. Faut pas m'en vouloir de ça. C'est ma faute si vous êtes très belle. Je vous épouserais, moi, si vous n'étiez pas déjà mariée. Du gars pirant. » Les convenances ainsi ménagées. « Et moi, siffla-t-elle entre ses mâchoires magnifiques, pensez-vous que je vous épouserai pas, si c'était possible ?» Il releva le nez, ne pouvant y croire. On lui avait dit comme ça qu'elle se moquait de ses amoureux, et il vit sur son visage la marque animale et divine du désir, dans laquelle les paroles deviennent inutiles. Ils échangèrent un regard ivre. Observés par les commères, ils se séparèrent à l'instant même. Et pour donner le change, la pirane à la cantonade cria dans le dos du matelot « Vous avez vu ce grand gingin avec sa goule de billes jaunes ?» Les bonnes femmes remarquèrent, habituées aux leçons de la clémence. « Ah, le pauvre jeune homme, si s'y frotte encore, eh bien je le jurerai comme un diantre !» Après ces clandestines et tacites fiançailles, il restait à consommer le péché mutuellement consenti. Là, d'innombrables obstacles. Quand le mari prenait de nuit la mer, le matelot du vigoureux l'apprenait aussi, sous les ordres de son patron. Et au grand jour, il était inutile de chercher à se rejoindre. Toute la ville eût été, le soir même, informée du rendez-vous. « Leur bourdon, ça ne me nuit point, » se disait Clémence. « Mais c'est Jean Pirant dans tout ça, qui me fait frayeur. » Et pour éviter même ses soupçons, car il était homme à faire un malheur, elle redevint, avec des efforts de héros, avenante comme par le passé. Pendant qu'elle lui souriait à table ou se subissait de la nuit, la tête tournait et retournait des idées. La seule chose possible, Marie Chausselin quitterait le rigoureux et se ferait portefeuille dans le port. Homme de peine à bord des charbonniers, enfin n'importe quoi, lui laissant sa liberté nocturne. Alors, au mari de la nuit, il se glisserait dans la maison, grimperait au besoin par la gluante fenêtre, l'homme à sa pêche, l'amant dans le lit, grand danger certainement, mais l'amour et le risque s'accordent bien, et la pirane n'avait pas froid à l'œil, comme elle s'en vantait elle-même. Par bribes de mots, elle mettait son matelot courant tous les matins avec l'air de parler de la crevette ou de la limande. D'autres hommes l'abordaient, bravant ses bourrades et ses colibets. Elle prenait grand soin de ne rien changer à ses manèges habituels avec eux, faisant mine de se gausser aussi de Marie Chausselin, et les fines gaillardes de la poissonnerie, auxquelles rien n'échappe d'ordinaire, ne devinaient pas, pour une fois, et dans le moindre nuance, le secret qu'on voulait leur cacher. Avant de parvenir, sans faire d'éclat, au changement de métier qui s'imposait pour Marie, il fallait attendre une occasion, la faire naître à propos. Ce serait une dispute à bord du vigoureux, un ordre qu'il refusera d'exécuter, même une insolence qu'il mettrait sans son tort. Mais son patron était justement pacifique et doux, et les querelles malaisées à susciter. Dans son impatience de la faute, la femme trouva bientôt. Mais j'ai quelqu'un de ma parenté, un cousin fiévreux de mon père, qui est goujat à la ferme de la Blanche-Belle. Ben, je dirais comme ça que le bonhomme est venu l'autre jour, matin, pour me parler des femmes et parents, et que ça lui a fait deuil de ne plus voir personne de la famille. Alors j'attendrai la basse merde jeudi après-midi, car je sais que mon homme veut raccommoder ses filets ce jour-là. Je partirai toute seule pour la Blanche-Belle, au quai moins de 2 heures. Et à 3 heures, j'en reviendrai. Ma visite au vieux ne sera point longue. Vous savez bien où ce que c'est. On se retrouvera dans le fin milieu de la route, et le bois de l'alentour sont grands quand on veut s'y coucher et s'y bûcher. C'est ainsi que leur coupable et curieuse nuit de noces eut lieu dans le soleil d'un beau jour de printemps, lit de mousse, alcôve de branches, senteur verte, ronflement d'insectes, bien loin de leur quotidien à odeur de poisson. Revenu le soir au logis, avec du violet sous les yeux, la Pyrane, en même temps que tous les mensonges qu'elle raconta, rapportait de sa promenade cette sorte de joie âpre que donne la conscience insatisfaite. « Pendant que tu bavais en compagnie, gai comme une hirondelle, dit Jean Pirat, les filets ont le corps accommodé. » « Tant mieux, répondit-elle joyeusement. Il y a tant de choses déchirées qui ne se raccommodent jamais. Mais il ne suit pas qu'avec ses quelques mots rieurs par-dessus l'épaule, c'était l'annonce même de son infortune qu'elle lui jetait à la figure. » Marie Chosselin eut sa querelle et devint débardeur sur les quais. À la première nuit de marée, il pénétra ténébreusement dans le logis de Jean Piran et lui vola pour la seconde fois sa femme. L'audace, l'amour, l'obscurité, tout s'en mêlait. Le lit conjugal valait mieux que les creux de mousse et le soleil dans les yeux. L'assurance de recommencer ses heures de folie chaque fois que le permettrait la mer multipliait leur joie adultère. En rentrant à l'aurore, le mari trahi secouait ses boucles d'oreilles, souriait dans sa barbe en collier de voir Clémence dormir si dur, un peu pâle entre ses sombres cheveux défaits. Elle fit celle qui ne s'éveille même pas. Outre l'horreur de l'étreinte légitime après sa bouleversante nuit infidèle, elle avait la peur animale que son mari sentit sur elle, comme sur les disent les paysans à propos des brebis, le goût de l'autre mâle. Elle attendit qu'il se fût profondément endormi pour se lever. Alors elle s'habilla sans bruit et commença sa journée laborieuse. Parmi les autres poissardes, elle sut se forcer pour garder son train ordinaire. Et quand son amant entra, comme chaque matin, venant prendre ses paniers, elle tourna le dos, très occupée derrière son étal, car lui était impossible de supporter ses yeux sans montrer dans les siens ce qui s'était passé si peu d'heures auparavant entre eux. Elle devenait tous les jours plus belle, plus tentante encore pour ses soupirants. Ses ironies se firent plus mordantes, ses rebuffades plus diaboliques que jamais. Personne ne devinait pourquoi ses yeux étaient si grands, sa bouche si pourpre, ses hanches si voluptueuses. Inassouvie entre ses rendez-vous difficiles, elle respirait l'amour, la jeunesse, la sensualité. Sans se douter de ce que ses empêchements conféraient de durée à sa passion, elle maudissait tout ce qui la séparait de l'homme choisi par son instinct incontrôlable. Être seule avec lui, cette idée fixe la harassait comme un mal. Elle prit l'habitude, les une ou deux fois par mois, voir son oncle auquel elle apportait un panier de poissons. Le vieux était toujours heureux de cette affection. Il ne se doutait guère du rôle qu'on lui faisait jouer. Mais tout cela ne suffisait pas à la fringale de la fille. Elle en voulait à son mari, au mariage, au matelot lui-même. Il ne savait pas conjurer tout ce qui les éloignait l'un de l'autre. Mais dans les bois où ils se retrouvaient, mais les nuits où la marée les favorisait, ruée à son plaisir, elle goûtait avec une violence accrue par les jours de contrainte, avec une témérité de plus en plus imprudente. Et ce qu'on a depuis si longtemps et si instrument nommé le bonheur dans le crime. Le divorce n'existait pas encore au temps où se passaient ces choses. On ne connaissait pas l'incompatibilité d'humeur dont se servent si bien de nos jours les époux mécontents l'un de l'autre. La Pirane était prête, si son mari découvrait quelque chose, à s'enfuir avec son portefeuille. Mais en attendant, elle faisait de son mieux pour que rien n'en eût l'air d'être modifié dans la vie de tous les jours. Adroit et glissant comme un jeune fauve, l'amant entrait dans le logis avec tant de ruse que nul ne pouvait sur la grève surprendre cette furtive ombre humaine parmi celles de la nuit. Complètement envoûté par sa complice, la nature de ce garçon en était transformée. Insouciant et gai jusqu'à sa rencontre avec elle, il devenait en même temps qu'encore plus efflanqué, mûr, concentré, presque sauvage. Mais ne l'ayant pas connu sous ses dehors au premier, les gens de la ville ne se rendaient pas compte de ce changement. 2 ans presque d'union intermittente, acharnée et silencieuse, n'avait pas encore assouvi la bête d'amour brusquement éveillée. La Pirane pouvait croire à l'éternité de son désir. Cependant, avant la fin de la 2e année, quelques signes apparurent. Sur le chemin de la Blanchelle, quand ils revenaient ensemble de leur péché forestier, moins exclusivement animal, la femme eut envie de quelques paroles, puis de conversation. Elle retrouvait tout doucement sa gaieté. La sorte de nervosité de son amant taquinait son humeur joviale. Rien ne le faisait rire. C'est agaçant, songeait-elle, rien. Elle n'avait pas su plus que lui l'envie dans les débuts, mais insensiblement, sa passion cessait d'être tragique. Grand corps qui s'étire après le plaisir, les électricités de son être montraient des marques d'usure à force d'étincelles et d'éclairs. Vint la nuit où elle s'aperçut, alors que l'homme dormait dans ses bras, enfin terrassé, qu'elle attendait l'aube avec impatience pour le voir partir et rester seule dans son lit. Le temps s'avançait où elle serait guérie de sa démence. Nulle tendresse n'était à la base de son attachement tout charnel. Elle était sur le point de se rendre compte. La crise passée, il serait fort agréable, après un tel déchaînement, de reprendre où elle l'avait laissé, sa reposante existence d'épouse. Et le travailleuse, absorbée seulement par les soins ménagers, le va-et-vient de la poissonnerie et le souci qu'elle partageait avec son mari de mettre de côté le plus d'argent possible pour s'assurer le bien-être de leur vieillesse. Les 2 ans révolus, elle fut enfin prête à rabouiller comme un chien, rejeté comme un joujou, cassé, celui qu'elle avait tant aimé. Ce n'était après tout qu'un pauvre débardeur, comme tant d'autres. L'enchantement fini, ses yeux refroidis, le voyaient tel qu'il était. Une honte lui venait, elle, la femme de Jean Piron. Maître de sa barque, patron d'un matelot et d'un mousse, d'être retourné à ses origines misérables et d'avoir pour amant un pauvre gars sans prestige et sans argent. Alors, ses nuits d'adultère lui parurent plus lourdes, toutes, que ses devoirs conjugaux. Elle prétendit avoir vu quelqu'un s'embarquer au pied de la fenêtre, feignit la terreur, évita de la sorte pour un temps l'étreinte pour laquelle elle était 6 ou 7 mois plus tôt, prête encore à vendre son âme. Marie Chosselin, lui, ne devinait encore rien. La pirame qui projetait de se rendre à la marine pour s'en débarrasser, ne savait comment aborder ce sujet épineux. En dehors de l'amour, elle ne connaissait pas cet homme. Était-il capable de violence? Elle se mit à l'étudier, méfiante, comme un autre mari qu'elle aurait eu. Il fallait le mettre à l'épreuve. Elle imagina de lui donner un nouveau rendez-vous autour de la Blanche Belle, le laissa s'y rendre seul, et comme la mer était basse cet après-midi, là, elle déclara facilement son homme à l'accompagner dans une promenade à Grasse, sous les beaux arbres du plein été. Elle fut vue dans la chapelle, aux côtés de son mari. Oui, tous deux avaient la dévotion des gens du port. Puis un peu plus tard, prenant une volée de cidre avec lui dans quelques fermes du plateau, rencontra même deux de ses collègues de la poissonnerie et rit avec elle d'un cœur léger, délivré. Tant de choses n'étaient pas nécessaires pour que le débardeur sût comment elle avait passé son temps loin de lui. Le lendemain seulement, elle recueillit de la bouche des autres marchandes les résultats de ses agissements. La veille au soir, à propos d'une bagatelle, le gars Chauchelin s'était battu comme une brute avec son charbonnier des prés et, dit la harangère qui racontait, il jurait. Et il le merdait, et il était si furieux qu'il en perdait sa culotte. Donc, capable en effet de violence et même d'esclandre. Cette bataille, c'était seulement pour soulager sa colère, car il ne buvait jamais. La pirane se mit à trembler. De pied ferme, elle l'attendit. Cependant, et avec son expression la plus crainte. Non, de pied ferme, elle l'attendit, à cause du ton. De pied ferme, elle l'attendit, cependant, et avec son expression la plus crâne. Aurait-il l'aplomb de venir à la poissonnerie, lui chercher des mots? Il y vint. Et ce qu'elle vit dans ses yeux, au lieu de l'épouvanter, la remplit d'un beau mépris. Il semblait relevé d'une longue maladie. La douleur de son regard était immense. « Bon, j'ai failli tuer quelqu'un hier, » chuchota-t-il lamentablement. « J'étais si dupe que tu prenais la fraîche avec l'autre, tandis que je t'espérais dans les bois. La furie m'a dépassé. Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?» Tu ne peux pas te répondre. On le regarde, va-t'en. La tristesse avec laquelle il s'en alla fut plus redoutable que toutes les récriminations. La pirane comprit que rien ne parviendrait à l'arracher d'elle. Il va coller comme l'emploi, fut sa mort de conclusion. Mais, ajouta-t-elle, si je l'apostrophe, il va casser et briser tout. Et ce garçon, auquel elle avait donné du temps de joie, auquel elle allait faire maintenant tant de mal, ce roi d'un jour devenu mendiant tout à coup, non, Elle ne pourrait le renvoyer comme un chien, le rejeter comme un joujou. Il avait plus de 2 ans. Mais elle, c'était pour la vie qu'elle lui plaisait. La poitrine pleine de soupirs, elle accepta le juste châtiment de sa faute. Elle était désormais 2 fois mariée et tellement empêtrée dans ses propres roublardises que jusqu'au jour où Marie Chasselin avait compris son malheur, se serait signée, résignée, la moindre minute de paix n'était plus à espérer pour elle.